toutes et à tous, vous écoutez Mathieu Bonciel au micro Yves Bastic pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Au début de cette année 2016, est paru aux éditions du Cherche Midi un livre qui a beaucoup intéressé les habitants de Chartres, des environs jusqu'à Orléans. Ce livre s'appelle « La loi de la guillotine » ou « La véritable histoire de la bande d'Orgères » paru aux éditions du Cherche Midi. Son auteur est Alain Bouzy. Alain Bouzy, dont certains se rappellent sans doute qu'il a travaillé longtemps à l'éco-républicain avant d'aller exercer ses talents ailleurs. Et Alain Bouzy, si j'ose dire, après la loi de la guillotine, récidive en quelque sorte, puisque aujourd'hui il nous propose un nouveau livre. Alors, j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Alain Bouzy, bonjour.
Bonjour Yves Bastide.
Alors, ce livre, d'abord dites-nous le titre.
La mémoire pour héritage.
Alors, La mémoire pour héritage, c'est édité par la Société archéologique d'Eure-et-Loire. Et La mémoire pour héritage, en fait, c'est la mémoire telle que vous avez pu la recueillir auprès de vos grands-parents.
Ce qui étaient des agriculteurs, des petits agriculteurs du sud du département d'Eure-et-Loire, dans cette vallée de la Conie que j'aime particulièrement et sur laquelle j'ai parfois écrit.
Oui, c'est vrai. Notamment aux éditions Alphonse Marais, qui n'existent plus malheureusement. Et alors, ce petit couple d'agriculteurs, vos grands-parents, s'appelait Antoinette
et Léon Ribaud.
Et Léon, ou Toinette et Léon. Je ne sais pas ce qu'il faut dire Antoinette.
Ah bah c'est Toinette, parce que tout le monde connaissait ma grand-mère sous le surnom de Toinette.
D'accord. Alors, c'est Toinette et Léon, Ribaud. Et il se trouve que vos grands-parents, donc, ont vécu cette période particulièrement difficile qu'est la guerre de 14. Alors, je vous écoute.
Au moment du centenaire, de la commémoration de la guerre de 14, la Société archéologique de Eure-et-Loire a fait un appel au peuple pour récupérer des documents familiaux qui racontent cette guerre. Et j'avais dans mes archives des lettres de mon grand-père. Et je ne savais trop qu'en faire et je les ai envoyés à la Société archéologique sans trop savoir si c'était intéressant ou pas intéressant, parce qu'il y en a eu beaucoup, des souvenirs de poilus. Et puis Juliette Clément, la directrice des publications, m'a dit être intéressée et je lui ai dit « j'ai bien d'autres documents, notamment les mémoires de ma grand-mère Toinette ». Et il s'est avéré que quand on rassemble ces documents, les lettres de la guerre de 14 plus les mémoires de ma grand-mère, on aboutit à un espèce de corpus qui est en fait toute la mémoire d'une petite paysannerie française, parce que c'est pas seulement le sud du département d'Eure-et-Loire qui est concerné. Et au-delà de cette narration, de cette grand-mère écrivain, en quelque sorte amateur, et qui m'a transmis cette passion de l'écriture, il y avait la question de savoir comment se transmet la mémoire. Et l'autre question aussi, est-ce que cette transmission ne s'est pas arrêtée? Et là, je ne sais pas, je ne peux parler que de moi-même, mais ma mère m'a peu raconté cette histoire, parce qu'en fait, elle en était partie, comme ses sœurs, et elle n'avait pas trop envie de parler de cette vie difficile d'après-guerre, parce que quand ces poilus sont revenus de la guerre, la situation était très très difficile sur le plan économique pour eux. Ils ont mis beaucoup d'années avant de s'en sortir. Et donc la tradition orale, d'une certaine façon, s'arrête pour moi, mais pour tous les autres. Et au moment où nos hommes politiques nous rebattent les oreilles de la question identitaire, qui est une question importante, mais à mon avis qu'on attrape par le mauvais bout, je me suis dit à moi, qu'est-ce que tu fais, toi, pour cette question d'identité? En effet, nous avons tous une histoire attachée à l'histoire de France. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de transmettre ce patrimoine, c'est-à-dire ces mémoires, cette
oui,
tradition orale.
Parce qu'en fait, vos grands-parents ont vécu une aventure partagée par beaucoup de Français à l'époque. Lui est parti à la guerre. Alors,
Ils écrivaient régulièrement et ils occupaient une petite ferme. Et c'est Toinette qui a pris en charge l'exploitation de la ferme. Donc les
Ce à quoi elle n'était pas préparée.
Oui, et qui a été obligée d'assurer.
Parce que
d'assumer, comme on dit maintenant.
Ma grand-mère n'était pas du tout agricultrice. Elle était la fille d'un petit agriculteur, Zosime Guillaumin, né en 1855 à Nothonville. Mais elle était lingère, couturière, brodeuse, et elle ne se destinait pas du tout à la vie d'agricultrice. C'est parce que, restée un peu vieille fille prolongée, comme elle dit dans son livre, elle souhaite se marier, et elle souhaite se marier avec un bel homme. Alors elle a beaucoup de demandes en mariage. Dans le livre, on verra des extraits de lettres de soupirants, de prétendants, de petits amis. C'est assez amusant. Mais elle ne les trouve pas à son goût. Ils ne sont pas assez beaux. Sauf qu'un jour arrive à la ferme de l'abbaye. L'abbaye, c'est le lieu emblématique de Nothonville. Un lieu qui me parle à moi beaucoup et qui fait partie, avec la vallée de la Conie, ce marécage de mes lieux magiques dont je parle dans le livre, elle a vu débarquer un maître charretier qui passait dans le bois de Nothonville, ce hameau, avec son attelage de chevaux, un grand bel homme aux yeux bleus, et évidemment elle est tombée sous le charme.
oui, parce qu'il faut quand même préciser que pour l'époque, quand ils se sont mariés, lui avait 29 ans, elle 27, c'était un peu tard.
C'était tard. Et lui avait fait son service militaire dans les cuirassiers. Il y a une photo dans le livre où il est en grand uniforme avec sa cuirasse. Enfin, il avait beaucoup d'allure. Elle se marie en 1912 et en 1914, son mari part et elle se trouve confrontée à devoir gérer et cultiver une petite exploitation agricole.
D'accord. Et je crois que ce qui peut être intéressant dans le livre, c'est le fait que cette aventure, qui vous est personnelle, puisque ce sont vos grands-parents, cette aventure a été vécue de façon peut-être un peu différente, mais de la même façon un peu partout en France.
Exactement. Oui. Mais ça, on l'a bien oublié. Et je crois que, évidemment, quand on n'a pas les archives, les documents, on peut qu'évoquer avec quelques anecdotes. Mais là, il y a ces documents, c'est-à-dire ces souvenirs écrits. Ma grand-mère a passé 10 ans de sa vie à remplir des cahiers qu'elle destinait à chacun de ses enfants. Et elle les recopiait. À l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, ou tout au moins il y en avait, mais ça ne l'intéressait pas. Et elle faisait, toute proportion gardée, comme Chateaubriand, elle reprenait sa copie, elle l'amendait, elle la complétait, ce qui fait que ça faisait une histoire en poupée russe.
D'accord. Si vous voulez bien, nous allons prendre une pause musicale, une chanson que vous avez choisie, de Charles Trenet, « Fidèle ».
Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Un vieux toutou, une boîte d'aquarelle, le port de la nouvelle au mois d'août. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des lieux et des amis très doux. Un drôle d'Albert et sa sœur en dentelle, un Castillet tout neuf, un Canigou, une rue de Béziers, une tante Émilie, une maman partant pour Budapest. Ma vieille maison avec sa tonnellerie et près de la gendarmerie les express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir d'un soir à Montauban. Candides ardeurs, nos cœurs, je me rappelle, c'était donné si jeune sur un vieux banc. J'étais parti dans la nuit des vacances, plus léger que d'elfe au petit jour. Mais à présent quand j'y pense, je pleure toujours mon premier amour. fidèle, fidèle. Pourquoi rester fidèle quand tout change et s'en va sans regret?
Alors, nous venons d'entendre Charles Trenet. Alors, Alain Bouzy, pourquoi avez-vous choisi Charles Trenet?
On nous parle toujours de la mémoire dans des termes un peu lourds, un peu oppressants, le devoir de mémoire, le travail de mémoire. Je trouve ça très ennuyeux, moi, le devoir de mémoire qu'on nous impose. La mémoire, elle peut être légère, elle peut être faite de petites anecdotes, de petites touches, comme le dit Trenet, des choses sans importance pour vous, pour nous. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson d'un chanteur qu'on n'entend plus guère.
Je suis quand même. Alors, pour en revenir à votre livre La mémoire pour héritage, où en sous-titre vous avez dit des mots pour le dire, mes mots M-A-U-X. Donc, je vais rappeler une chose quand même, si vous voulez bien, c'est que vous m'avez dit Léon.
Et Toinette.
Léon Ribaud était premier charretier, c'est ça?
Premier charretier, voilà, c'est ça.
Et dans une ferme, le premier charretier, c'était quand même...
C'est le chef d'exploitation.
C'est le chef d'exploitation, c'est lui qui quand même mène en gros la ferme.
Sous l'autorité du propriétaire, mais c'est lui qui décide du moment où on sème, du moment où on laboure, qui est le patron des ouvriers, des employés agricoles qui étaient nombreux dans les fermes à cette époque-là. Le maître charretier présidait à la table du déjeuner ou du dîner, et quand il faisait claquer son couteau, c'est-à-dire que lui avait mangé, ceux qui n'avaient pas fini leur assiette étaient priés de se lever aussi. C'était lui le patron.
Donc, quand il épouse...
Toinette,
qui n'est pas encore votre grand-mère, puisque vous n'êtes pas là.
Non, j'étais pas né en 1912.
Ils acquièrent une ferme, et ils commencent l'exploitation, c'est à ce moment-là qu'éclate la guerre de 14. Et lui est obligé de tout laisser, de partir.
Voilà, alors il avait fait son service à Rambouillet dans les cuirassiers, et donc il est appelé au service, il est appelé à la guerre, et il s'occupe des chevaux, c'est-à-dire que son talent à lui, évidemment, en tant que maître charretier, c'est de s'occuper des chevaux, et dans l'artillerie, on a besoin de canons, mais on a besoin aussi de chevaux pour tirer les canons. Et donc, il s'occupe de cela. Et puis, petit à petit, il devient en fait responsable dans sa division de l'approvisionnement de ses hommes et de l'approvisionnement des chevaux. Parce qu'évidemment, les chevaux sont importants dans la guerre de 14, au début de la guerre surtout, après moins. Et donc, il faut approvisionner tout ce monde. Et comme il connaît bien le monde de l'agriculture, c'est lui qui fait venir de Bonneval ou d'ailleurs des tonnes d'avoine ou de tout ce qui sert à la nourriture du régiment, hommes et chevaux compris.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez retrouvé des lettres. Donc, il écrit à son épouse tout en étant à la guerre. Et en même temps, lorsqu'il revient, apparemment, il ne... parle pas de ce qu'il a vécu.
Ça, c'est le syndrome de tous les militaires. Ils ont beaucoup de mal à parler de ce qu'ils ont vécu. De même pour les gens qui étaient dans les camps de concentration. C'est tellement difficile qu'il vaut mieux se taire, mettre l'histoire sous le boisseau et continuer sa vie comme avant. C'est difficile de parler de l'horreur, tellement difficile qu'il est intéressant dans le livre de voir comment, entre ses carnets intimes, parce qu'il écrit son carnet, son journal de bord, il raconte ses camarades déchiquetés par les obus, etc., ce qu'il se garde bien de faire dans ses lettres. Dans les lettres, il est rassurant. D'abord parce que la censure militaire veille, il ne faut surtout pas...
Ça passerait pas.
Ça passerait pas. Et en plus, il ne veut pas choquer et inquiéter sa famille, parce qu'il faut savoir que ses lettres, elles étaient destinées à son épouse, mais donc les lettres étaient lues par toute la famille. Et quand il recevait des lettres de ses frères, il avait... c'était une famille de 12 enfants, les Ribaud, un natif de Notonville. Il y avait 4 garçons dans la guerre, plus 4 beaux-frères, c'est-à-dire 4 maris des filles. Il y a 8 hommes en guerre dans la même famille. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Et donc, il recevait des lettres de ces gens-là. La poste marchait bien, ça. Il faut dire que sur le plan de la poste, ça fonctionnait très bien. Il recevait des lettres, il les renvoyait avec des commentaires ou un petit mot sur la partie restée vierge de la lettre. Et donc, ces lettres étaient faites pour être lues par toute la famille. Ce qui fait que parfois, sur la même lettre, on a 2 intervenants. En revanche, les lettres de ma grand-mère n'ont pas été conservées, d'abord parce qu'elles étaient sans doute très personnelles si on en juge les commentaires que lui fait en lui répondant, mais aussi parce que le soldat, qui risquait sa vie tous les jours, ne voulait pas qu'on trouve sur son corps les lettres personnelles et intimes. Donc, au bout d'un certain temps, il les brûlait, mais dans une de ses lettres, il dit qu'il a beaucoup de mal à détruire ses documents. Donc, il le fait contraint et forcé. Et il est très malheureux de ça.
Oui, en résumé, le fait de reprendre les lettres et ce qu'a écrit votre grand-mère après, c'est aussi une façon pour nous, aujourd'hui, non pas de revivre, mais d'imaginer ce qu'a pu être la réalité de la guerre, de la guerre de 14, ce qu'a pu être la réalité au niveau du quotidien, pas au niveau des communautés de guerre, des croix de guerre, des maréchaux, etc., mais au niveau du soldat de base, si j'ose dire, et de la famille. Pas uniquement dans la région de Laconie, mais on peut supposer que c'était dans la France entière, c'était la même chose.
Bien sûr, c'est en cela que le bouquin, je ne vais pas dire à valeur universelle parce que c'est prétentieux, mais tous les gens, tous les Français pourront se retrouver quasiment dans ce type d'histoire, parce que tout le monde a eu un père, un grand-père, un grand-oncle, un arrière-cousin qui a fait la guerre de 14. Alors oui, cette guerre, elle est épouvantable, mais aussi la vie continue, c'est-à-dire que ma grand-mère, dans ses textes, en parle, mais elle n'est jamais dans le pathos et dans l'horreur. Lui non plus, dans ses lettres, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt dans ses carnets qu'il raconte la réalité des choses. Mais la vie continue tellement que, par exemple, une grande partie de ses lettres sont faites pour donner des instructions à son épouse pour ensemencer tel champ. On retrouve les noms charmants des champs qui étaient des petits champs à l'époque. On était avant le remembrement et les grandes exploitations agricoles. Donc, il nous parle de la mine pointue, de la fosse au loup, de la mine à pierre tout seul. C'est des noms de champs qui ont complètement disparu, qui ne sont même plus sur les canals, si tant est qu'ils n'y ont jamais été. Et donc, toute cette petite agriculture-là et cette vie locale, l'orme Amélie, on allait se reposer sous l'orme Amélie quand on faisait la moisson, parce qu'il y avait un peu d'ombre, c'est là qu'on prenait son petit réconfortant du lait ou une tartine de fromage. Tout ça a disparu et c'est aussi cette vie agricole-là que j'ai voulu faire renaître, parce qu'aujourd'hui, quand on est en voiture en Beauce, on voit personne. Or, à l'époque, il y avait du monde sur les chemins. Il y avait des voyageurs, il y avait des agriculteurs, il y avait des moutons dans la plaine et la plaine était habitée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Si vous le voulez bien, nous allons prendre une deuxième pause musicale et vous avez choisi cette fois-ci Glenn Gould, une variation Goldberg de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Nous revenons vers vous, Alain Bouzier, mais à présent. Donc, après la bande d'Orgère, la loi de la guillotine, dont quand même l'horreur des crimes n'arrive pas à atteindre le tiers de la moitié du commencement des crimes qui ont été commis pendant la guerre de 14, il faut bien dire. Donc, vous avez, après donc la bande d'Orgère, vous vous attachez à retrouver, à pérenniser, à rendre durable la mémoire de ce qui est arrivé à votre famille, enfin votre grand-mère et votre grand-père. Vous êtes un peu dans l'histoire un passeur de mémoire, si j'ose dire.
Bien vu, vous avez parfaitement compris ce que nous avons voulu faire. C'est vrai que je me suis senti dépositaire d'un patrimoine, et tellement dépositaire que le jour de mon 40e anniversaire, j'ai reçu un gros paquet accompagné d'une lettre qui était envoyée par ma tante reine, c'est-à-dire l'aînée des filles Ribaud, dont on parle aussi dans le livre parce qu'elle est née en 1913 et qu'elle était là pendant la guerre de 14, et son père fait très référence à elle, souvent référence à elle, lui envoie des cartes postales, la gronde parce qu'elle, évidemment, elle est un peu capricieuse, élevée seulement par sa mère et sa grand-mère. Et un jour, cette tante, reine, qui était un peu le chef de famille, elle tenait de son père le côté autoritaire, me dit, eh bien voilà, ces lettres sont pour toi, elles font partie du patrimoine de la famille, quand je les lis, je vois encore ces personnages, j'entends leur voix, elle parle de son père, de ses oncles, de ses tantes, et donc c'est à toi de prendre soin de ces lettres, et donc elle me passait le flambeau d'une certaine façon, et c'est ça qui était extrêmement émouvant. Et donc, quand on se trouve confronté à cela, on se pose la question. Moi, je suis célibataire. Qu'est-ce qui va advenir de ces documents après moi? Ils iront sûrement à la benne, à moins que les archives départementales de Eure-et-Loir y trouvent un intérêt. Mais plus vraisemblablement, elles iront à la poubelle, comme un très grand nombre d'archives et de documents en France, qui pour moi m'effarent totalement quand des gens me disent qu'ils ont brûlé des documents qui appartenaient à leur tante, à leur grand-mère, en vidant une maison et en mettant les meubles chez le brocanteur. Je trouve ça scandaleux, je suis choqué. Et donc, je voulais pérenniser ces documents, et il n'y a pas d'autre moyen de le faire que de les publier. Donc, c'est en cela que je ne suis que le dépositaire. C'est comme le propriétaire d'un château, d'une tour, il n'en est que le dépositaire. Il devra le transmettre aux générations futures, ce que j'ai essayé de faire avec ce livre.
D'où le titre, « La mémoire pour héritage ».
Oui.
Donc, en fait, pour vous, c'était un peu une obligation?
Oui, mais...
Sentimentale, morale, presque physique?
Sans le côté devoir de mémoire, parce que je le fais de mon plein gré, sans que ce soit lourdingue, quoi, passez-moi l'expression un peu vulgaire. Donc, je voudrais garder le côté léger des narrations de ma grand-mère, qui écrit avec une plume alerte, sympathique, drôle, avec maniant l'autodérision. Donc, je voudrais qu'on garde un peu cette fraîcheur-là, tout en parlant d'événements très difficiles, très cruels, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser des mots lourds pour parler d'une chose grave.
Ça passe mieux quand c'est des mots légers.
Et la légèreté, c'est quelque chose qui n'est plus du tout dans l'air du temps, parce que c'est très mal vu. Il faut avoir la tête entre les mains et dire des mots définitifs et des choses très profondes. Oui, il faut dire des choses profondes, mais on peut les dire d'une façon légère. C'est pourquoi Charles Trenet, tout à l'heure, parlait des choses sans importance. Ça fait partie des choses sans importance, mais qui sont quand même fondamentales.
Oui, d'autant plus que, d'après ce que vous me dites, ce qui est arrivé à votre famille, qui vous touche plus particulièrement personnellement, ça rejoint un peu la grande aventure des hommes et des femmes de France au moment de la guerre de 14 et après toutes les transformations qui ont pu suivre, etc. C'est un peu une histoire collective vu à travers un exemple individuel.
Les historiens d'aujourd'hui sont plus attentifs à ces questions, hein, depuis Emmanuel Leroy-Ladurie ou Fernand Braudel ou des gens comme ça qui avaient une lecture beaucoup plus sociologique de l'histoire ou ethnologique de l'histoire qu'une vision, disons, à travers les grands documents, les grandes œuvres d'art. Oui, moi je suis un admirateur du château de Versailles, j'aime bien la galerie des batailles, mais on sait qu'il n'y a pas que ça, et surtout ces témoignages modestes, parce qu'ils ne sont que modestes, hein, et je ne me fais pas d'illusions, c'est pas ce que nous publions là, ce ne sont pas des documents d'une grandeur considérable, mais ils contribuent à raconter une histoire avec un petit H, l'histoire qui fait partie de la grande histoire avec un grand H. Et donc c'est ça que nous avons essayé de tricoter à la Société archéologique avec Juliette Clément, c'est justement de constituer un tissu en le cousant délicatement avec ses lettres, avec ses documents, avec ses cahiers, et de constituer un livre qui, j'espère, intéressera les lecteurs.
Enfin, une petite histoire, parce que plusieurs petites histoires font la grande histoire.
Exactement.
Alors, je rappelle quand même que le livre qui vient de sortir s'appelle « La mémoire pour héritage ». Il est édité par la Société archéologique d'Eure-et-Loir. Je se rappelle également, puisqu'il y a toujours à la médiathèque une exposition sur la bande d'Orgères, votre livre « La guillotine, la véritable histoire de la bande d'Orgères », édité, elle,
Cherche-Midi.
Et en souhaitant à tous et à toutes une bonne lecture, je vous remercie Alain Bouzy d'avoir bien voulu venir aujourd'hui.
Merci à vous.
Et merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
Estudunya emena magapune molis famandi crisume visia tha ginune. Amanti crisune, visia tha ginune. Γεννήθηκα το κόσμο έχω γνωρίσει μέσα τα φύλλα της καρδιάς εγώ έχω μαρτυρήσει μέσα τα φύλλα της καρδιάς εγώ έχω μαρτυρήσει. Κουτσαβάκιδες που ζουνε στο κουρμπάκι.